Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Grande émotion ce jeudi au Vatican lors de la rencontre traditionnelle entre Benoît XVI et les membres du clergé du diocèse de Rome. Le pape a livré sans notes et en toute simplicité une lectio divina sur le Concile Vatican II. Nous entendrons à ce propos le témoignage d'un prêtre romain qui assistait à cette rencontre. Il nous fera part de son émotion et de ses interrogations après la décision historique du pape. Un geste noble, c'est ainsi que le cardinal Thorens, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, définit la renonciation de Benoît XVI. Il nous racontera aussi le moment précis où le pape a annoncé qu'il renonçait à sa charge. Les réactions à travers le monde sont nombreuses. Nous avons recueilli place Saint-Pierre celle de l'évêque de Obala, au Cameroun. Il remercie le pape pour tout ce qu'il a fait pendant son pontificat, notamment pour l'Afrique. Une telle décision inédite suscite bien des questions concrètes. Le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, tente d'y répondre chaque jour depuis lundi. Nous ferons le point. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican, un magazine une nouvelle fois entièrement consacré à Benoît XVI et au Vatican. De longs applaudissements et beaucoup d'émotions donc une nouvelle fois au Vatican. C'est même sans doute ce qu'il faudra retenir de ces derniers jours si particuliers dans la vie de l'Église. Ce jeudi matin, en la salle Paul VI, la même où la veille, les fidèles ont rendu hommage à Benoît XVI lors de l'audience générale, les prêtres, curés et l'ensemble du clergé du diocèse de Rome ont ovationné le pape. Ils étaient tous rassemblés en fin de matinée pour rencontrer celui qui, pour quelques jours encore, est leur évêque. Une rencontre traditionnelle en ce début de carême, mais qui s'est déroulé dans une atmosphère particulière. Olivier Bonnel.
Les mines sont solennelles et les regards humides. Pour la dernière fois, les prêtres romains ont rencontré leur évêque dans un moment privilégié. Après s'être recueillis sur le tombeau de pierre, les prêtres de Rome ont très chaleureusement applaudi Benoît XVI à son entrée dans la salle Paul VI. Un moment émouvant, certains n'ayant pas pu cacher leurs larmes. « Nous ne cachons pas que beaucoup de sentiments se mêlent en nous », a dit le cardinal Agostino Vallini, le vicaire de Rome, lors de son discours de remerciement. « De la tristesse et du respect, de l'admiration et du regret, de l'affection et de la fierté. Nous resterons toujours liés à votre fort et doux exemple de vie. » Benoît XVI a remercié le clergé romain pour sa prière mais aussi sa vitalité. C'est une joie de voir ainsi l'Église vivante et tous ses pasteurs, a-t-il souligné, avant de prononcer cette phrase. Même si je me retire dans la prière, je vous reste toujours proche. Le pape a ensuite parlé pendant près de trois quarts d'heure dans un discours improvisé et raconté ses souvenirs du Concile Vatican II où il assistait le cardinal archevêque de Cologne, Joseph Rinks. Benoît XVI a montré une nouvelle fois sa mémoire immense et le sens du détail, provoquant même le rire et les applaudissements en racontant une anecdote. « Nous sommes allés au Concile avec joie et avec enthousiasme », a-t-il raconté. « Il y avait une attente incroyable. On espérait que tout serait renouvelé. » Vatican II était une expérience de l'horizontalité où les évêques ont pu mieux se connaître entre eux, a-t-il dit. Ce fut aussi une expérience de l'universalité de l'Église. Le pape est rentré plus en détail ensuite sur les discussions et les fruits du concile. Il a rappelé la vigueur des théologiens français, allemands ou belges qui ont participé à la créativité de Vatican II et qui ont posé la question de la relation de l'Église au monde. Le pape qui a également souligné que Vatican II avait œuvré pour que la liturgie soit vraiment un dialogue entre les prêtres et le peuple de Dieu. Vatican II qui a véritablement renouvelé l'ecclésiologie, a-t-il aussi expliqué, avant de revenir sur l'héritage conciliaire à travers les grands textes « Gaudium et Spes » ou « Nostra Aetate », l'importance du dialogue œcuménique et avec les autres religions. Benoît XVI a fini son discours en rappelant qu'il y avait aussi un autre concile parallèle, celui des médias, rappelant la présence des très nombreux journalistes présents à Rome à l'époque et qui devaient répondre aux défis de cet événement historique. Le pape a parlé d'un concile virtuel qui devait rendre compte du concile réel, mais l'herméneutique des médias était différente de celle de l'Église et pour les médias, le concile était une lutte de pouvoir entre différents courants dans l'Église. Aujourd'hui néanmoins, on se rend compte que le concile virtuel s'efface pour laisser apparaître les fruits du concile réel. Je serai toujours avec vous à lancer une nouvelle fois Benoît XVI à la fin de la rencontre, qui s'est achevée comme elle l'a commencé, par des applaudissements nourris.
Olivier Bonnel. Et au début de cette rencontre, le cardinal Vallini, vicaire pour le diocèse de Rome, a fait part des sentiments qui animaient tous les participants. Tristesse et respect, admiration et regret, affection et fierté, a-t-il décrit. En tout cela, nous adorons la volonté de Dieu et accueillons de votre bien-aimée personne l'enseignement qui nous montre comment on aime et on sert le Christ et l'Église. Nous resterons liés pour toujours à votre doux et fort exemple de vie, a-t-il encore déclaré. Parmi les prêtres présents lors de cette rencontre avec Benoît XVI dans la salle Paul VI du Vatican, le père Stefano Caccia, prêtre diocésain, il revient sur cet adieu du pape à son clergé romain.
Alors avec le clergé, on a d'abord fait un pèlerinage à la tombe de Saint-Pierre. Il y avait déjà une grande émotion là, on a chanté les litanies. C'était comme invoquer les saints pour leur demander une aide pour l'Église qui est sur la terre. Et arrivé au tombeau de Pierre, moi personnellement, j'ai un peu pleuré, parce que c'est quand même pas facile pour l'Église. C'est un chemin un peu particulier qu'on n'a jamais vécu, et donc on se sent un peu dans une tempête. Et puis après, on est allé dans la salle Paul VI pour rencontrer le pape, on l'a attendu, et puis quand il est rentré, là aussi il y a eu, comme on le voit aussi sur les images, cette grande ovation de tous les prêtres de Rome. Et puis, on a commencé à écouter ses paroles. Ce qui était beau, c'est qu'il a raconté un peu le concile, comment ça s'est passé, comment lui, il est arrivé au concile. Et je pensais que c'était le dernier pape qui avait connu le concile, parce que sûrement le nouveau pape ne l'aura pas connu. Donc, c'est le dernier témoin vivant, pape qui est un témoin de ce concile. Et ça a été beau de terminer sur son témoignage et ce concile qu'on doit encore appliquer, comme il l'a dit aussi, il l'a rappelé.
Est-ce que vous pensez que c'est son testament spirituel qu'il vous a laissé ?
Il a toujours, depuis le début, il a évoqué le fait de vouloir mettre en pratique ce concile dont il a toujours dit qu'il n'avait pas été complètement développé. Et je crois que oui, dans un certain sens, c'est un testament spirituel, le fait d'un des derniers témoins du concile et en même temps pasteur universel qui nous rappelle les grands textes du concile, qui nous rappelle les orientations, le pourquoi ça avait été créé, quel est le vrai sens. Il a parlé d'un concile des médias et du véritable concile, non ? Celui que les médias avaient rapporté et donné et simplifié, un peu trop simplifié. Et puis après, le vrai concile qui doit encore être appliqué. Même s'il a parlé de quelque chose qui était il y a 50 ans, c'est en même temps une vision d'avenir, d'espérance aussi, de pouvoir appliquer cette vision que la Lumen Gentium, par exemple, de l'ecclésiologie avait préparée et qu'il faut qu'on vive maintenant.
Le soin d'appliquer ce qui reste à appliquer du concile, c'est peut-être ce qu'il laisse à son successeur, vous pensez ?
Oui, je crois que c'est ce qu'il ressort un peu de ce pontificat. Lui, il a toujours voulu, d'un côté, lutter contre le schisme, non, avec les traditionalistes, qui étaient nés après le concile. Donc, il a toujours voulu, jusqu'à la fin, il a voulu réunir l'Église et lutter contre ces divisions. Et en même temps, il a toujours essayé, à travers ses homilies, à travers son enseignement, de redonner lumière à ce concile pour l'appliquer. Je pense que c'est ce qu'il laisse à son successeur, oui.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. La décision de Benoît XVI de renoncer au trône de pierre n'a laissé personne indifférent au sein de l'Église. Simple fidèle, curé, évêque, cardinal, quelle que soit sa nationalité et ses responsabilités, tous expriment leurs sentiments, leur avis et leur émotion. Les réactions des différents épiscopats ne cessent d'affluer en direction du Vatican. Elles sont trop nombreuses pour en rendre compte dans le détail. Je vous propose néanmoins celle de l'archevêque de Saint-Domingue, primat de l'Amérique, le cardinal Nicolas de Jesús López Rodríguez. Le prélat qui participera au prochain conclave, elle n'est toujours pas revenue de l'étonnement qu'a provoqué la renonciation du pape. Il reconnaît que personne n'y pensait, mais que le pape a donné à tous un témoignage admirable de sincérité, de liberté et de courage. Le cardinal López Rodríguez ajoute que Benoît XVI a dû affronter les critiques et les calomnies contre l'Église qui le firent beaucoup souffrir, selon lui. Dans cette situation, ajoute-t-il, le pape n'a jamais rien laissé sans réponse et il a demandé pardon quand cela était nécessaire. Le cardinal López Rodríguez, archevêque de Saint-Domingue, a donc été surpris, mais c'est donc loin d'être le seul. Un autre cardinal, pourtant plus proche physiquement du pape, a éprouvé le même sentiment. Il s'agit du cardinal Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il nous livre ce qu'il pense du geste de Benoît XVI et revient sur les circonstances de l'annonce de la renonciation qu'il a lui-même vécue.
Je dirais d'abord que, à part la surprise, c'est quand même un geste de très grande noblesse et aussi le témoignage d'un grand détachement, se retirer comme ça de la scène, si je puis dire, mais qui est bien dans la ligne de ce pape qui s'est présenté comme un humble travailleur dans la vigne du Seigneur, lorsqu'il, comme il l'a dit au début de son pontificat. Et finalement, c'est dans la ligne de son projet, puisque toujours au début de son pontificat, il disait « Mon vrai programme de gouvernement, ce n'est pas de faire ma volonté, mais de me mettre à l'écoute de ce que le Seigneur attend de moi pour la vie de l'Église. » Alors je crois que c'est ça, il a très bien réalisé cela. Et d'ailleurs, il a expliqué que s'il se retirait, c'était parce qu'il ne se sentait pas l'énergie nécessaire pour affronter les grands défis que l'Église doit relever dans le monde aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs que l'événement qui a été décisif, c'est la perspective de ce long vol vers Rio de Janeiro, la présence au milieu des jeunes. Il ne se sent pas capable d'affronter cette épreuve. Et donc, il a dit que les jeunes ont droit à voir le pape, ils se sont préparés. Il y a un enthousiasme extraordinaire, donc je me retire, je laisse la place.
C'est un geste historique, c'est un acte de foi. On a le sentiment que le pape est aujourd'hui serein.
Oui, mais ça, il a été toujours serein. Depuis le début de son pontificat jusqu'au milieu des tempêtes et tout ça, il a toujours gardé cette grande confiance. D'ailleurs, c'est très curieux quand on lit certains de ses textes. Très souvent, il y a cette expression « Dieu nous tient la main, nous tenons la main de Dieu, on est dans la main de Dieu ». C'est une grande confiance en Dieu. Et l'autre jour, quand il nous a annoncé qu'il se retirait, il était très calme, très serein, avec ce visage très pacifique, presque angélique.
Comment avez-vous réagi, donc, vous, les cardinaux présents, à cette annonce?
D'abord, il y a beaucoup de cardinaux qui n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Donc, ceux qui savaient ont expliqué. Et puis, c'est un peu l'étonnement, enfin, parce qu'évidemment, ça change la manière d'exercer le primat de Pierre, et puis aussi, je pense que ça va avoir des répercussions sur le droit canonique aussi, bien sûr. Et puis il y a tout un tas de problèmes qui se posent. Par exemple, le pape, il n'est plus cardinal, il n'est plus pape. Donc il devient un évêque émérite. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Comment il va s'habiller? Enfin, il va dire des petites choses comme ça. Donc tout le monde est un peu dans l'expectative.
Avec ce geste, donc, Benoît XVI change en quelque sorte le visage et la nature même du pontificat.
La nature même, non, je ne dirais pas, mais le visage, si, sans doute, parce que ça montre un pape qui est profondément humain et dans le fond très moderne. D'ailleurs, c'est très curieux, quand on lit les journaux de ces jours-ci, c'est les mêmes journaux, il y a un an, on parlait d'un vieux pape conservateur, etc. Aujourd'hui, c'est un pape très moderne, qui est prophétique, donc tout est relatif.
Beaucoup évoquent même un pape réformateur.
Oui, réformateur, en ce qui concerne l'exercice du primat, oui, peut-être, oui.
Le cardinal Le Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il était au micro d'Hélène Destombes. Le cardinal Torrent, à qui le pape a imposé les cendres mercredi soir lors de la messe des cendres qui ouvre le carême. Le cardinal Torrent, qui est aussi protodiacre et qui, à ce titre, aura la tâche d'annoncer le nom du nouveau pape, le fameux Habemus Papam. L'Afrique aussi a réagi à l'annonce historique de la renonciation du pape. Des quatre coins du continent, cardinaux, évêques, prêtres, catholiques et fidèles, même des autres confessions religieuses, sont unanimes à saluer sa grandeur d'esprit et sa lucidité. Par ce geste, le Saint-Père vient d'offrir à l'Église et au monde entier un exemple d'esprit de service. Il a donné tout ce qu'il pouvait et rien que cela. Humainement, on ne peut donner que ce que l'on a, mais tout ce que l'on a ainsi déclaré le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, au Sénégal. Parmi les réactions que nous avons pu recueillir ici à Rome, il y a celle de Mgr Sosten Léopold Biaemi Madjei, évêque de Obala, au Cameroun. Il a participé mercredi à l'audience générale. Avec des mots tout simples, il nous confie son émotion, sa gratitude, et nous dit sa certitude, Benoît XVI continuera à prier pour nous, et loin des yeux, il ne sera pas loin des cœurs. Mgr Biaemi Madjei est d'autant plus touché que Benoît XVI a visité son pays.
Notre gratitude est infinie vis-à-vis du Saint-Père pour le service qu'il a rendu au monde, le service qu'il a rendu à l'Église. C'est une gratitude que des mots ne peuvent pas exprimer. et surtout qu'après l'avoir accueilli au Cameroun où il était en 2009, je le vois partir vraiment avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Mais c'est une nouvelle que nous prenons avec beaucoup de foi. Voilà pourquoi nous voulons simplement lui dire l'assurance de nos humbles prières. Nous prions pour lui et nous savons que c'est surtout lui qui prie pour nous. Et merci infiniment au Saint-Père pour ce qu'il est pour notre Église, ce qu'il va continuer à être pour notre Église. Merci pour sa prière. Merci pour toute l'œuvre théologique qu'il accomplira encore pour donner la lumière au monde. Le message comme testament que je garde du Saint-Père en ces moments de grandes difficultés à travers le monde, c'est que Dieu est vraiment au cœur de tout. Dieu doit être le début, le centre et la fin de notre existence. Le Saint-Père a été pour nous un grand témoin de Dieu, un homme de Dieu véritablement, authentiquement. Et l'œuvre à poursuivre avec lui, puisqu'il continue avec nous dans la prière et la réflexion théologique, c'est de remettre Dieu au centre de la vie de l'humanité.
Monseigneur Bayemi Madjei, évêque de Obala au Cameroun. Trois jours après que le pape a annoncé avoir renoncé à sa charge pontificale, les questions en suspens sont toujours nombreuses. On ne sait toujours pas, par exemple, comment il faudra s'adresser à Benoît XVI après le 28 février. Les réponses, cependant, arrivent au compte-gouttes. On sait ainsi qui accompagnera le pape à Castel Gandolfo et qui restera avec lui au Vatican, comme l'a précisé ce jeudi le père Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Antonino Gallofaro.
C'est l'archevêque Georg Genswein, son actuel secrétaire personnel, qui accompagnera et qui restera avec Benoît XVI dès la fin de son pontificat le 28 février. Avec eux, il y aura aussi les Memores Domini, les quatre laïcs qui font partie de la famille pontificale. Monseigneur Genswein restera par contre le préfet de la maison pontificale. Ensuite, dès le 1er mars, le calendrier reste encore à préciser. Le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a une nouvelle fois renvoyé vers la constitution apostolique, conditionnelle à l'appui. Le conclave devrait se tenir 15 à 20 jours après le début de la vacance du siège apostolique. C'est aussi dès le 1er mars que les cardinaux réunis à Rome pourront loger dans la résidence Sainte-Marthe, la résidence du Collège des cardinaux, dès le 1er mars, dès la vacance du siège apostolique, mais pas avant. Enfin, le Vatican est revenu sur la décision du pape. Sa renonciation lundi est bien conforme au droit canonique. Il ne pourra par contre pas renoncer à son nom de pape, Benoît XVI, qui restera lui dans l'histoire de l'Église.
C'est peut-être un des derniers évêques nommés par Benoît XVI. Monseigneur Laurent Persouroux est ainsi nommé évêque de Moulins, en France. Il était jusqu'alors vicaire général du diocèse de Chartres. Monseigneur Persouroux est né en 1961. Il a été ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Chartres, dont il est originaire. C'est un des monuments emblématiques de l'histoire de la papauté que les touristes et les Romains longent tous les jours. Le Passetto du Borgo, ce passage surélevé qui relie le château Saint-Ange au Vatican et qui a sauvé la vie à deux papes. Alexandre VI, en 1494, quand le roi de France Charles VIII entra alors dans Rome, et Clément VII, en 1527, quand les lansquenets de Charles Quint saccagèrent la ville éternelle. Eh bien, le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et le ministère italien de la Culture ont signé ce jeudi un protocole d'accord concernant l'utilisation du Passetto et d'une tour de garde qui en contrôle l'accès. Les deux parties ont considéré leur intérêt commun à collaborer afin de valoriser et de protéger le patrimoine historique et artistique que ce Passetto représente. Concrètement, il s'agit d'effectuer des travaux d'aménagement pour consentir l'afflux et le reflux des visiteurs, notamment les handicapés. Cet accord s'inscrit dans un projet plus général de restauration et de valorisation du Passetto du Borgo par l'État italien et qui doit, in fine, permettre la réouverture au public du monument, aménageant ainsi un accès au musée national du Château Saint-Ange. Voilà, c'est sur cette dernière nouvelle que nous nous quittons. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.